matin froid à Brooklyn, emmitouflés, les lycéens débarquent à Grand Orme, leur établissement. Sa chahute, sa smart, sa vie. Un air d'insouciance souffle sur ces adolescents avant que la journée ne tourne au drame.
Ne restez pas dans les couloirs.
À tous les professeurs, emmenez vos élèves dans les espaces de confinement sécurisés.
Venez, on sort de la classe, on va dans les couloirs.
Bienvenue dans Sériland, zoom sur Grand Army et sur ces séries qui parlent des ados. Sériland, c'est le podcast qui vous donne envie de regarder des séries de qualité. Celles qui sont dans l'actualité, comme la série turque Ethos, ou la fiction belge Sense of Tumor, sur lesquelles nous reviendrons à la fin de cet épisode. Et puis, il y a les séries qui nous racontent, qui racontent notre rapport aux autres, qui nous rappellent des moments de nos vies. Je m'appelle Eva, je suis une enfant de la télé, elle était déjà dans les foyers quand je suis née, j'ai grandi avec. J'ai notamment passé de longues heures de mon adolescence devant Santa Barbara, quelques séries AB comme Hélène et les garçons. Et puis, Hartley, cœur à vif, série australienne, a débarqué devant mes yeux ébahis. Tout ça avait beau se dérouler de l'autre côté du globe terrestre, ces ados, ces pré-adultes, me ressemblaient plus que ceux qui piaillaient dans une cafétéria colorée. Aujourd'hui encore, je dévore les séries dites pour ados en me disant que soit j'ai toujours 12 ans, ce qui est fort possible, soit ces fictions sont un miroir de la société extrêmement pertinent, voir les deux. Avec mon équipe de Sérivores, Clémence Olivier, Patrick Notrevoix et Marion Olité, rédactrice en chef de Combini Binge, qui est notre Sérivore invité, on a choisi de se concentrer sur quelques-unes de ces séries, à commencer par Grand Army, qui débute donc avec cet attentat commis à proximité du lycée, un événement qui va bouleverser l'équilibre de la journée et de celles à venir. Reste une épineuse question, c'est quoi l'adolescence? C'est quand surtout? J'ai cherché dans le Larousse, dans lequel il est écrit « Période de la vie entre l'enfance et l'âge adulte, pendant laquelle se produit la puberté et se forme la pensée abstraite ». Bon. Heureusement, sous la définition, il y avait une citation de Proust tirée de La recherche du temps perdu « L'adolescence est le seul temps où l'on ait appris quelque chose ». Pour évoquer ces sujets, il nous fallait quelqu'un sorti récemment de l'adolescence. Axel Orion est musicien et comédien. Il incarne notamment dans l'excellente série Scam le personnage de Lucas. Et dans la vie, la vraie, il est un jeune adulte au CV déjà impressionnant. Et il est notre invité expert de ce nouvel épisode de Sériland.
Sériland, épisode 27.
Bonjour Marion Olité.
Bonjour Eva.
Et bonjour Axel Orion.
Bonjour Eva.
À quel âge avez-vous été adolescent? Te et adolescent? Est-ce que vous avez déjà passé le cap ou vous êtes encore un petit peu?
Moi, je pense que je serai toujours adolescente,
c'est
en fait.
Et Axel?
Je pense aussi, je pense que j'apprends toujours. Enfin, en tout cas, d'après
oui,
Proust,
d'après
je suis
Proust,
encore adolescent.
On est d'accord. Vous avez 22 ans, on peut le dire.
Exact. Oui, on peut le dire.
Donc, c'était il n'y a pas si longtemps que ça pour
je
vous.
Je crois que je suis encore un peu dedans,
c'est
honnêtement. Oui, là, je commence à partir de chez mes parents, donc ça y est, j'enclenche le processus de couper le cordon à l'indépendance.
On va en parler. Parce que c'est récurrent quand même dans toutes les séries pour ados, ce désir d'indépendance et de chercher plutôt la colocation que de rester chez papa et maman. J'aimerais qu'on commence par évoquer la nouvelle série Netflix Grand Army, une saison 9 épisodes, pour découvrir donc le quotidien de lycée dans cet établissement qui est plutôt bien coté à New York, dans le quartier de Brooklyn, des filles et des garçons issus de milieux plutôt modestes, voire défavorisés, qui espèrent pouvoir monter dans le fameux ascenseur social. Alors il y a par exemple Joey, la fille dévergondée, maligne, mais très engagée, Leila, d'origine chinoise, adoptée, qui imagine sa vie en manga ultra-violent. On a aussi Dominique, issu d'une famille d'immigrés haïtiens, qui rêve de devenir thérapeute, Siddhartha, nageur, excellent élève et qui espère intégrer Harvard, ou encore Jason, incroyable saxophoniste qui s'imagine lui jouer Coltrane dans l'orchestre de la Juilliard School. Marion,
ouais.
Pourquoi faut-il regarder Grand Army ?
parce que c'est une série qui va vous faire connaître la fameuse génération Z qui fait tellement peur aux boomers, comme ils les appellent à leurs parents. La génération Z, donc, c'est donc celle qui est née entre 97 et 2010 à peu près. Et en fait, c'est celle qui est née avec, avec un portable attaché au bras et qu'on a tendance à un petit peu trop artificialiser en disant que voilà, ce sont des gamins dépolitisés qui veulent juste prendre des snaps et trouver la célébrité sur Instagram. Là, la série, en fait, elle nous montre que c'est tout le contraire et que s'ils utilisent les réseaux sociaux, c'est pour mettre en avant un certain militantisme. Les personnages sont géniaux. Moi, je trouve que tous les acteurs et les actrices, notamment les personnages principaux, donc l'actrice qui joue Joey, celle qui joue Dom aussi, on peut les citer. Joey, c'est Odessa Azion et Dom, c'est Audley Jean. Et en fait, elles sont vraiment intenses. Elles sont, c'est vraiment des belles découvertes aussi. C'est cool de découvrir. Moi, j'adore dans les séries pour ados, c'est le cas de Grand Army, de découvrir des nouveaux talents. La série, elle nous montre aussi ce que c'est que d'être adolescent en post-MeToo, post-11 septembre. Donc c'est aussi une série hyper intéressante sur les traumatismes que doivent gérer ces ados.
Je suis bien d'accord avec vous. On va ouais, l'illustrer avec des extraits. Et évidemment, je sais que vous n'avez pas encore vu cette série.
Pas du tout, mais très honnêtement, vous me donnez très envie de la regarder.
Ben voilà, donc vous avez déjà répondu à la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'on va vous donner envie? Voilà. J'aimerais d'ailleurs qu'on écoute un extrait qui met en avant Joey. Donc c'est une des héroïnes. Elle n'hésite pas à revendiquer son féminisme. C'est en ça qu'elle est extrêmement intéressante. Elle vient de lancer une opération journée sans soutif. Donc elle débarque en cours sans soutif avec un petit débardeur blanc qui est très transparent, et avec beaucoup de provocation, elle va renverser une bouteille d'eau sur son petit haut qui devient évidemment transparent et qui va laisser apparaître sa poitrine. Confrontation avec l'enseignante.
Bon, ça suffit. Je vous demande de sortir, Joey.
Pardon ?
Allez tout de suite au bureau du proviseur adjoint.
Pourquoi ?
Pour commencer, vous êtes mouillée.
Ah, ça va sécher. Je peux pas manquer le début d'une nouvelle leçon.
Et de plus, vous êtes habillée de façon inappropriée en cours.
Je porte un t-shirt.
Avec un texte provocateur.
Y a rien de vulgaire ou qui fasse référence à la drogue.
Vous me faites perdre mon temps.
C'est pas mon intention. Continuez votre cours.
Je peux voir que votre t-shirt ne cache plus grand-chose. Et ce n'est pas acceptable dans ma classe.
Ne cache pas.
Je vous demande de vous couvrir.
Elle veut parler de tes tétons.
Ah, monsieur Friedman, je vous remercie, mais je n'ai pas du tout besoin que vous parliez à ma place.
Attendez, vous voulez dire que mes tétons ne sont pas les bienvenus dans votre cours?
Sortez immédiatement, Joey.
Tout le monde a des tétons. Pourquoi les miens seraient inappropriés? Si vous voulez me faire sortir de la classe alors que j'ai le droit de rester, je crois que vous devriez au moins m'expliquer quel est le problème exactement.
C'est parfaitement vulgaire. C'est une salle de classe et vous êtes habillée comme une prostituée.
Elle est sérieuse?
Vous êtes à la limite de la prostitution pour attirer l'attention et vous perturber les autres, Joey. Si seulement vous aviez un peu plus d'amour-propre.
Pour être totalement honnête avec vous, dans ma version originale, je crois que c'est plus fort que prostituée, le terme. Il me semble qu'elle lui dit « vous êtes habillée comme une pute ».
Et ouais, je pense voilà aussi.
Et donc les élèves sont extrêmement choqués en fait, et ça va donner lieu à une confrontation ensuite avec le proviseur du lycée. Marion, quel est le personnage qui vous a le plus enchanté dans Grand Army?
C'est difficile d'en choisir un seul. J'aime beaucoup le parcours de Joey, qui est hyper intéressant en tant que féministe en herbe et qui justement fait écho en septembre dernier en France. Les lycéennes et les collégiennes ont aussi défilé le 14 septembre et le ministre de l'éducation, leur a demandé
de s'habiller,
d'avoir une tenue républicaine. Oui. Donc c'est vraiment, ça montre à quel point Grand Army est vraiment dans l'actualité et se fait le reflet de thématiques qui sont universelles, pas seulement américaines. Maintenant, les séries adolescentes ont souvent beaucoup mis en avant des personnages blancs de la classe moyenne aisée. Donc en fait, je vais plutôt choisir les personnages afro-américains. Il y a le personnage de Dom qui est hyper fort. On voit très rarement.
Qui est une fille, hein.
Ouais, qui est une fille pour le coup, pardon.
Dominique Pierre, elle s'appelle, parce qu'elle est d'origine haïtienne.
Oui, voilà. Et en fait, elle, on voit à travers elle tout les complications qu'il y a à être une jeune femme noire et qui doit à la fois jongler entre la pression de l'excellence scolaire, parce que ce lycée, c'est la voie pour aller dans des écoles prestigieuses comme Harvard. Elle a aussi le poids aussi très pesant de ses devoirs familiaux, avec une famille qui peine à sortir
des traditions
et qui peine à sortir la tête de l'eau aussi financièrement. Et elle a aussi sa vie de collégienne, de lycéenne tout simplement, avec un crush en cours, avec un jeune garçon. Et vraiment, c'est une jeune femme très courageuse. Elle a un monologue super beau où en fait elle veut décrocher un stage dans une association qui est gérée par des femmes noires aussi. Et elle explique dans ce magnifique monologue pourquoi est-ce qu'elle aimerait intégrer leur association. Et voilà, c'est hyper touchant. Ça montre aussi que les ados sont hyper intelligents, qu'ils sont très loin des clichés qu'on veut nous faire croire, en fait.
je vous rejoins totalement sur le personnage notamment de Dominique Pierre et sur le fait qu'on montre enfin les adolescents de façon intelligente et c'est ce qui vous rapproche aussi avec Scam. On va en parler ensuite, Axel, ensemble, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de ponts et de points communs entre ces deux séries, notamment parce que Grand Army aborde aussi toutes les questions qui sont liées à l'adolescence, alors à savoir évidemment la sexualité, l'identité sexuelle, le rapport à l'argent, la notion de réussite, les relations avec les adultes, la contestation, l'engagement, tout ça sur fond de fête quand même, hein, de drogue et beaucoup d'alcool, évidemment, comme dans Scam. Je vous vois très, très concentré. On est d'accord qu'il y a de l'alcool dans Scam.
Et on est d'accord qu'il y a de l'alcool. D'accord. Et de la drogue aussi.
Et de la drogue aussi.
Non, non, mais ça parle... Enfin, dans la dernière saison, en tout cas, il y avait le thème de l'addiction, oui. qui était très représentatif aussi de ce qu'on a pu... des jeunes qu'on a pu rencontrer et qui nous faisaient part de leurs problèmes aussi. Et donc, il y a un peu... Enfin, non, mais parce que dire beaucoup d'alcool, il n'y a pas tant d'alcool
non,
que
non,
ça,
non,
mais c'est vrai que la problématique... D'accord. Oui, oui. Je me mets juste à la place des gens qui vont écouter le podcast. Et
avec modération.
Scam France, voilà. Avec modération.
Ah oui, oui, non, bien sûr. Non, non, vous buvez qu'en plus que des bières. Je ne sais pas pourquoi vous buvez que de la bière, mais si, parce que oui, parce que quand on est ado, on boit de la bière, évidemment. Enfin, évidemment, voilà ça, on boit beaucoup de bière. Et... ça coûte pas cher.
Et ça, j'embrasse ma mère. Maman n'écoute pas ce podcast.
Axel Orion, les séries, elles fonctionnent souvent sur un processus d'identification. Est-ce que vous, vous qui étiez encore adolescent il n'y a pas si longtemps, vous vous retrouvez dans ces fictions ?
Oui, et j'ai beaucoup de chance, je pense, d'être dans cette génération-là où tout à coup, on va avoir des rôles oui, où même nous, on peut beaucoup plus s'identifier aux personnages. Si on s'éloigne beaucoup plus des clichés, du simple « maman, t'es relou », etc. Et donc, y a, en tant que comédien, en tout cas, c'est beaucoup plus simple de mettre nos émotions et notre adolescence à nous au service d'un personnage et de ce qu'on a vécu et de nourrir le personnage de tout ça qu'avant, où j'ai l'impression qu'on était beaucoup plus dans les clichés. Et puis, c'est beaucoup plus riche aussi, même en termes d'histoire. C'est vrai que tout à coup, les problématiques sont beaucoup plus complexes et de ce qui se passe aussi chez un adolescent. J'ai beaucoup aimé la définition de Marcel Proust, mais c'est vrai que c'est une sacrée période d'apprentissage, de remise en question, d'erreur. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus... Oui, depuis 5 ans, en tout cas, les personnages qu'on me propose et que j'ai la chance de lire et même de voir sont beaucoup plus riches que...
Mais pourquoi ? Parce que les scénaristes vous donnent plus la parole et vous écoutent mieux qu'avant ? Ou c'était des séries pour ados écrites par des adultes, au fond, qui se moquaient un peu d'être dans le réalisme ? Et là, on fait plus attention à vous en tant que
personne ? Je pense que c'est pas seulement ça, c'est plus une addition. Mais il y a déjà ça, parce que c'est vrai que, tout comme les acteurs, je pense que les scénaristes aujourd'hui, il y a une vraie mouvance de jeunes scénaristes qui écrivent. Bah, Scam, par exemple, c'est beaucoup de jeunes scénaristes. Mortel, pareil. Enfin, il y a vraiment une
Mortel
une...
à voir sur France.tv aussi.
Ouais. Ouais. Non, c'est sur Netflix.
Netflix. Mais, J'ai confondu avec Mental.
Je confonds aussi très souvent.
C'est vrai, exact. Mortel,
c'est Mais il y a aussi, je pense aussi, en termes. Voilà, c'est important aussi de voir. La notion de liberté, où est-ce qu'elle est en fonction du diffuseur, des plateformes. C'est vrai que l'arrivée des plateformes, tout à coup, a totalement révolutionné les choses, puisqu'on n'était pas dans une diffusion hertzienne. Donc, je veux dire, le terme de la ménagère, on l'entend beaucoup moins sur les plateformes, et on a l'impression que, oui, les plateformes, quelque part, sont faites avec les jeunes, pour les jeunes, et dans une volonté que ça corresponde vraiment à ce que vivent les jeunes aujourd'hui.
Oui, ça a sans doute libéré la parole, et
je
notamment
pense.
Sur toutes les questions liées à l'identité sexuelle. C'est vrai qu'on les a vues arriver d'abord sur des séries qui sont notamment sur Netflix, avant de les voir ailleurs. Et puis le hertzien commence à s'y mettre un peu aussi. Donc
oui,
c'est
mais c'est
bien.
Aussi une question de comment est-ce qu'on la traite, comment est-ce qu'on la réalise, est-ce qu'on fait fi des contraintes ou pas, ou est-ce que se posent les contraintes, même dans la réalisation. C'est vrai que d'aborder un sujet, je parle en tout cas pour Scam, prenons l'identité sexuelle, comment est-ce qu'elle va être abordée sur les chaînes, parfois... J'ai l'impression, beaucoup plus avant que maintenant. Maintenant, il y a un virage, que ce soit sur M6, TF1, France 2, vraiment génial. Mais avant, je pense qu'on avait peur de choquer. On était encore dans un système très, très conservateur. Et on avait peur de choquer, on avait peur de montrer. Et je pense qu'au contraire, aujourd'hui, il ne faut pas choquer, mais ça ne choque personne. Et il faut que ça rentre dans les mœurs. Et il y a toute une révolution comme ça qui est très intéressante, je trouve, d'un système... entier, quoi.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et alors, je voulais vous diffuser un dernier extrait de Grand Army pour conclure avec une scène que j'aime particulièrement. Jason est un adolescent afro-américain. Il est chez un disquaire avec son grand-père qui va lui raconter le sens du morceau Alabama, joué alors par John Coltrane.
D'après la légende, Coltrane n'a dit à personne ce qu'il enregistrait, même pas à son quartet. Et les feuilles de partition n'avaient pas de titre. Même si tu sais pas pourquoi il l'a écrit. Quand t'écoutes cette musique, tu sais ce dont il s'agit. Tu le ressens. C'est un éloge. T'as entendu parler de l'église baptiste de la 16e, à Birmingham?
Là où il y a eu l'attentat?
Ouais. C'était 2 mois avant qu'il enregistre ce disque. Tu vois le saxo? Se lamente, il chante toute sa peine. Mais derrière le sax, t'entends les percussions, pas vrai? Elles avancent, elles s'élèvent, elles sont menaçantes. C'est la tension qui rend ce morceau tellement puissant. Cet album parle du moment où la tristesse se transforme en colère. C'est un mémorial. C'est une protestation.
Alors j'aime beaucoup cet extrait pour 2 raisons. D'abord parce que j'ai trouvé très malin qu'une partie de la bande originale fasse une place au jazz, parce que cette musique et l'extrait en est l'illustration racontent une partie de l'histoire des Afro-Américains, et parce que cette musique rend plus intelligent aussi. Et puis cet extrait, il relève aussi une des grandes thématiques dont vous parliez, Marion, Olité, c'est évidemment le racisme. On va revenir sur cette question. Auparavant, Axel, vous qui êtes musicien, parce que je ne l'ai pas encore dit très précisément, vous êtes batteur, mais vous êtes surtout multi-instrumentiste, si j'ai bien tout compris. Vous avez joué avec, j'en cite quelques-uns, hein, Joyce Jonathan, Nicoletta, Manu Dibango. Vous avez eu la chance de jouer avec Manu Dibango.
C'est ça.
Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation du jazz dans une série pour ados? Est-ce que ça vous étonne d'entendre cet extrait?
Non. Mais peut-être que je suis pas très objectif, mais je suis très heureux de cet extrait en tout cas.
C'est bien pour ça que je vous pose la question.
Et c'est vrai que dans cet extrait-là, ce que je trouve très beau et ce que j'aime beaucoup, même on parlait de cette génération et de l'éducation au niveau des arts, même au niveau de la musique, on est beaucoup plus dans une. C'est important, je pense, à l'enfant et dans l'éducation des gens à l'oreille musicale, de plutôt qu'est-ce que t'entends et après d'expliquer plutôt que de dire bah voilà ce qu'il a voulu dire. Là, on est vraiment dans un éveil, dans une écoute et qu'est-ce qu'on ressent en écoutant une musique plutôt que de se dire tiens écoute il a voulu dire ça. Et je trouve ça très très beau. Chacun peut se faire sa propre interprétation, et c'est en tout cas dans cet extrait-là, je trouve que c'est le père qui lui.
C'est le grand-père.
C'est le grand-père. Ouais. Je trouve qu'il a des mots très justes dans l'éveil et dans la liberté de qu'est-ce que t'entends, et voilà, regarde, on va essayer de ressentir un morceau ensemble. Je m'exprime très mal,
non, mais en tout cas, je trouve ça très, très bien. On a très bien compris, vous allez être obligé de la regarder vraiment, Grand Army, en VO, parce que vous verrez toutes les subtilités aussi avec l'anglais, et c'est absolument magnifique. Il y a du John Coltrane jusqu'au bout, donc moi, autant vous dire que j'étais ravie, et j'étais extrêmement surprise.
Oui. Et je me permets aussi de. Non, mais c'est, même en termes de doublage, je trouve qu'on est dans une.
Ça va, c'est correct.
Oui, non, mais il y a depuis 5 ans aussi, en même temps que les séries, je trouve qu'on est dans une volonté d'être dans. Même, parce que j'ai la chance de faire un peu de doublage en ce moment aussi, et on prend ça très au sérieux. Et en tout cas, j'ai le souvenir de regarder des séries télé avec mes parents. On se disait, mais attends, c'est pas possible ce doublage-là.
Je vous en ai gardé une, vous allez voir. Vous allez voir. Ouais, vous allez comprendre.
Super.
Qu'on a fait beaucoup d'efforts.
D'accord.
Je vous confirme.
On m'embrasse à des productions.
Oui, non, je pensais pas à des productions. Okay, vous allez voir. Marion Vité, je le disais, la série évoque longuement la question du racisme, sauf que la série a dû faire face à des critiques pour le moins assez inattendues. Cathy Capiello, qui est la showrunneuse, aurait proféré des insultes à caractère raciste, aurait volé des histoires écrites par des scénaristes de couleur. Alors, ce sont des accusations très graves qui ont été portées par une scénariste qui a claqué la porte ensuite. Elle aurait embarqué avec elle 2 autres collègues selon ses déclarations faites sur Twitter. Je vais être totalement sincère, ni Cathy Capiello ni Netflix n'ont réagi à cette polémique. Mais c'est vrai que la série est remontée aussi dans l'algorithme de Netflix, dans le top 10 des séries à voir en ce moment, suite à cette polémique qui a été fortement développée sur les réseaux sociaux.
La méthode aussi de Cathy Capiello, ça peut toujours prêter à discussion parce qu'en fait, elle prend des témoignages de ses élèves, étant donné qu'elle a été prof donc dans une école d'art dramatique, Lee Strasberg, je crois.
Oui, tout à fait.
Et du coup, en fait, si ça sonne vrai, Grain d'Army, c'est aussi parce qu'elle prend directement les témoignages de ses élèves. Mais alors, entre recueillir avec le consentement, prendre avec les. Enfin, donc, c'est effectivement. Je ne sais pas, je ne prononce pas, c'est fort possible qu'elle ait, potentiellement.
Alors, c'est une vraie question, d'autant qu'elle a recueilli ses témoignages pendant 18 ans. Donc, elle a eu le temps d'en accumuler, évidemment. Pour la petite histoire, Dominique, dont vous parliez, c'est la comédienne, en l'occurrence, et une ancienne élève de son cours d'art dramatique. C'est la seule qui est restée dans le groupe, parce qu'au passage, il faut le dire, toutes les comédiennes et tous les comédiens de la série sont absolument bluffants, à mon sens. Il n'y a aucune star au casting, et c'est très bien. C'est un peu comme Scam, vous n'étiez pas connu. Et je trouve que ça donne une fraîcheur qui est essentielle dans les séries pour ados. Moi, je vais vous le dire, j'ai vraiment été bouleversée par Grand Army. J'ai eu un petit bémol au début, sur la première scène. Le premier épisode, je ne savais pas trop où j'étais et j'ai re-regardé et j'ai bouffé, comme on dit, les 9 épisodes. Et vraiment, j'ai été extrêmement émue du début jusqu'à la fin. Je crois que vous partagez, Marion Olité, ce sentiment.
Ouais, parce que c'est une série sur les traumatismes et en fait elle montre bien toutes les étapes pour les différents protagonistes. Donc en fait on nous cache rien. En fait dans les séries ados il y a plusieurs années, on va dire, je dirais pré-Me Too, il y avait quelque chose comme on mettait une sorte de voile de pudeur. Il y avait certaines scènes qu'on montrait pas vraiment frontalement. Mais depuis 13 Reasons Why, je mettrai à peu près ça là, ou Skins peut-être un peu avant. Ouais. Vraiment les séries ados qui veulent taper dans l'authenticité montrent réellement comment vivent les ados à travers leur point de vue à eux, pas à travers un point de vue qui serait un peu plombant ou juste avec du recul. On n'est pas dans le recul là, on est vraiment dans la peau de ces personnages. On est dans l'empathie, donc on comprend vraiment ce qu'ils subissent en fait. Donc c'est assez bouleversant.
Et je pense que c'est la même problématique avec le point de vue féminin, où longtemps ça a été c'était un point de vue masculin qui regardait les femmes, et aujourd'hui c'est un point de vue féminin qui se met dans la tête des femmes. Alors peut-être que ce que vous disiez aussi, Axel, c'est le fait d'avoir des scénaristes un peu plus jeunes. On entre aussi par une autre porte et on a un jugement en tout cas plus juste sur les gens dont on parle.
Et puis on est une génération qui, je trouve, grandit beaucoup avec ça. Et on s'éduque beaucoup, j'ai l'impression, grâce aux séries, grâce au voilà, le hashtag MeToo, le Black Lives Matter, etc. C'est plein de mouvements où je trouve, en tout cas, en tant qu'adolescent, j'ai beaucoup appris avec ça. Voilà, respecter les communautés, des choses qu'on se rend pas compte qui s'inscrivent dans du racisme tacite, de l'oppression par le pouvoir, des choses dont j'avais pas forcément confiance, et les séries et ces mouvements là et les réseaux sociaux m'ont permis aussi de m'en rendre compte. Donc je pense que c'est aussi une génération, même en tant qu'acteur je me nourris pas mal des séries et je grandis beaucoup avec les séries et avec cette culture des réseaux sociaux et de la génération Z.
On va en parler des séries que vous avez vues et on va parler de Scam, surtout Axel. La mise en ligne de Grande Army nous a donné évidemment envie, vous l'aurez compris, de plonger ou de replonger dans d'autres séries pour ados. Donc à commencer par Scam, dans laquelle vous jouez Axel Orion. C'est la série à retrouver sur France.tv. C'est l'adaptation d'une série norvégienne où on suit le quotidien de lycéens. Alors leur vie au lycée et en dehors, leur histoire d'amour, la découverte de la sexualité, leur questionnement métaphysique, leur interrogation sur leur avenir, encore qu'ils ne se projettent pas tant que ça, mais bon, ça c'est, je trouve que c'est récurrent chez les adolescents et c'est tant mieux. Les relations conflictuelles avec les adultes, la quête d'identité. Et puis, il y a deux piliers, deux thèmes qui sont souvent là dans les séries pour ados, qui sont la recherche de l'indépendance et d'une plus grande liberté, avec une originalité sur la forme dans Scam. Chaque saison se concentre en particulier sur un personnage et sur un thème. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre personnage et le thème de la saison 3 dans laquelle vous explosez?
Alors, c'est très gentil, j'ai bien fait de venir ici. Donc, j'interprète Lucas, qui est un jeune garçon qui est au lycée et qui se cherche et qui se perd et qui se pose des questions sur son identité sexuelle, mais pas que, sur sa place parmi son groupe de potes, sur sa place dans sa famille, sur ce qu'on peut dire, voilà, aussi de ce dont on peut parler avec les parents, de ce système parfois un peu conservateur. Sa mère est a priori très conservatrice dans la religion chrétienne et donc il a peur qu'elle l'accepte pas. Et bon, je vous spoil pas la série pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille Scam France sur France.tv/. Et voilà, c'est un personnage qui se perd, qui se cherche et qui fait face aussi à toutes les normes sociétales auxquelles il peut faire face, que ce soit sur les réseaux sociaux. Voilà, je trouve ça très très juste et je me suis perdu avec lui. Et c'est la première fois enfin en même temps, c'est pas beaucoup tourné non plus, mais c'est la première fois où je me suis perdu avec un personnage. Et
ça veut dire quoi, se perdre?
Ça veut dire
l'incarner totalement, tout le temps.
Lâcher prise. Après, ça me semble très prétentieux de dire ça, mais du moins, ouais, rentrer avec lui et tout à coup, il y a des moments où on se met à pleurer, où on ne sait pas si c'est. Il y a des trucs où j'avais l'impression de ressentir vraiment ce qu'il ressentait. Alors après, on essaye de vivre ça à une échelle de fiction, mais en passant par ça aussi, on se rend compte de plein de choses, de à quel point ça peut être dur de se chercher quand on est dans cette période-là, où tout à coup, le regard des autres. Prend une part très importante, où on juge beaucoup par rapport à l'erreur, par rapport au passé de chacun.
Et sans spoiler, Axel, on peut dire que le thème de cette saison 3, dans lequel vous êtes le héros principal, c'est sur l'homosexualité et l'acceptation de l'homosexualité, on peut le dire ou pas?
Non.
Non.
Pardon. Okay. En fait, on l'a pas abordé en homosexuel, on l'a abordé comme un jeune homme qui se rend compte qu'en fait, il peut aimer un homme et qu'il n'y a pas de souci à ça, et c'est tout ce processus d'acceptation de l'amour. Je pense juste qu'on peut dire que c'est un personnage qui tombe amoureux, sont tombés dans un truc très démagogique et etc. Mais c'est pas vraiment sur la, c'est plus ouais sur la sexualité, et de se rendre compte qu'en fait il y a juste il aime un homme et un homme une femme, c'est pareil, plus que de se dire tiens il se définit homosexuel. C'est vachement identitaire sur comment est-ce qu'on se définit à un instant T de notre vie, comment est-ce qu'on évolue. On peut dire qu'on aime les hommes à un instant T et un an après aimer les femmes. Moi là j'ai la chance d'être très très heureux en amour, mais je sais pas ce que ça va m'amener dans 2 ans, etc. Donc enfin voilà, c'est plus sur
mais
un personnage.
Alors, je suis très contente de vous avoir posé la question comme je l'ai faite, parce que finalement votre réponse, elle en est d'autant plus intéressante, parce que c'est vraiment
ça. Je suis tellement perdu.
Mais non, vous croyez que j'allais vous engueuler?
Vous pourrez, il n'y a pas de souci.
Bien sûr. T'es conflits de génération. Non, mais parce que c'est vraiment ça, je pense aujourd'hui, ce qui change beaucoup dans les séries pour ados quand on parle d'identité sexuelle. Effectivement, c'est pas le terme homosexuel qui revient, mais c'est je tombe amoureux, et comment je tombe amoureux, et quelles sont les affres de l'amour, et que ça soit une fille ou un garçon, il y a un côté universel à tout ça. J'ai envie qu'on écoute un extrait. Il y a une scène que j'adore dans cette saison 3 de Scam, c'est celle de votre première soirée, donc avec Elliot qui est joué par Maxence Danet-Fauvel. C'est la première fois que vous venez chez lui, il fait nuit dehors, l'appartement est à peine éclairé, et vous soulevez le capot du clavier d'un piano.
Tu sais jouer ?
Bah, je peux te dire que ma cover de la lettre à Ellie fait un carnage. Après, je sais aussi jouer le thème de Star Wars. Mais bon, j'ai pas trop envie de t'impressionner.
Tu peux essayer ?
J'ai un triangle hein, aussi, si tu veux.
D'abord parce qu'on vous voit jouer au piano. Il y a à la fois de l'humour, ce qu'on retrouve beaucoup dans Scam et que j'aime particulièrement dans cette série, parce qu'on sent tout de suite en quelques secondes la relation qui se noue entre ces deux personnages. La scène est très belle à l'image parce qu'il y a une lumière particulière, vous êtes extrêmement bien éclairé. Est-ce que vous vous souvenez quand vous l'avez tournée, cette scène ?
Oui, je m'en souviens très très bien.
Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez tournée ? Vous vous souvenez ou pas ?
Je me souviens surtout du regard de Maxence. En fait, il y a sur le travelling où il me regarde jouer. Et c'est là où je vous dis qu'on se perdait, c'est-à-dire qu'on a une connexion assez incroyable, et je me souhaite, mais je sais pas si, mais en tout cas j'ai eu la chance de le vivre avec un acteur. C'était des regards très très forts, et j'ai le souvenir d'avoir mon cœur qui battait très fort. Et non, c'était un beau moment, et on savait à quel point aussi à quel point cette scène était importante dans la série, et justement on voit les deux personnages et toute la complexité, je trouve, de ces deux personnages et de ce qu'ils vont vivre. En tout cas, on a très envie de les voir. Enfin, moi, j'avais très envie de les voir après.
Évoluer.
Ouais, exactement.
Je suis d'accord.
Merci.
Avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de Scam, Marion Olité ?
Ah bah, Scam, c'est une série phénomène, hyper importante des années 2010. Enfin, moi, j'ai regardé toute la série norvégienne que j'avais adorée. Et c'était une série assez révolutionnaire, hein, parce qu'elle utilisait aussi l'outil réseaux sociaux. Enfin, c'est la première série, en fait, qui a fait ça, qui fonctionnait en temps réel fictif. C'est-à-dire que. Les épisodes sont découpés en lundi, mardi, mercredi, et le lundi, le bout de la scène était mis en ligne sur les réseaux sociaux. Donc ça a vraiment créé un processus d'identification
oui,
avec les jeunes qui regardent. Moi, j'aurais tellement kiffé d'avoir ça, de pouvoir regarder une série comme ça tous les soirs de la semaine en rentrant, au lieu de regarder des fois des sitcoms qui avaient absolument rien à voir avec
On ne les citera pas.
On ne citera pas. Ou Hélène et les garçons, pour ne pas les citer. Donc non, j'ai adoré et... Et du coup, j'étais hyper curieuse de quand c'est arrivé en France, en fait, l'adaptation française. J'avais un peu peur parce qu'on connaît le passif des séries françaises, justement, et la manière dont elles dépeignent les adolescents, qui est souvent un petit peu en retard. Et là, franchement, non, vraiment, c'était super. Les ados sont tous les acteurs et les actrices, vous êtes vraiment super. C'est assez bouleversant. Enfin, là, j'ai commencé à regarder un petit peu la saison 6 aussi. On est vraiment, ce que je disais, on est à hauteur d'ado, et les sujets qui sont abordés peuvent être hyper graves, et en même temps, il faut les aborder parce que ouais, c'est ça qu'on a vécu en fait quand on était ado. C'était pas rose tous les jours, au contraire. Enfin, le lycée, le collège, c'est un champ de bataille en fait, c'est le bordel dans nos têtes tous les jours. Et vraiment, Scam l'aborde ce truc d'aborder des sujets hyper forts tout en restant ultra bienveillante. Et donc, ouais. Je comprends que la série, elle ait des tonnes et des tonnes de fans. Parce qu'elle elle montre la dureté d'être ado, tout en montrant la tendresse, en fait, des ados.
Vous parliez du succès de la série, Marion. Axel, sans vous flatter, il paraît que ce personnage vous a offert une notoriété internationale. Vous êtes allé faire des conventions aux États-Unis, en Corée, c'est vrai ?
Oui, oui, c'est vrai.
Comment vous l'expliquez ? Ça veut dire quoi faire une convention aux États-Unis ou en Corée ?
Ça veut dire aller en Corée avec tous ses potes. Puis ce qui est d'autant plus touchant et c'est là où je suis très heureux de ces rencontres-là, c'est aussi de se rendre compte que les jeunes nous parlent de leurs problèmes quelque sorte. Enfin, je dis jeune, je suis jeune aussi, mais de sentir. Même moi, ça m'a beaucoup aidé à me dire, mais attends, mais en fait, des crises d'angoisse, tout le monde en fait. Et en plus, c'est là aussi où je pense que la série a eu un succès, c'est que tout à coup, ça a fédéré un groupe de gens qui regardaient ces séries, qui faisaient face à leurs problèmes d'adolescents et qui ne se jugeaient pas, qui étaient c'était au final un truc très bienveillant, je trouve. Et un espace de parole très public. Et puis nous, on n'a jamais caché qu'on a été adolescents aussi. Moi, j'ai jamais caché que je me suis perdu dans mon identité plein de fois, et je le fais encore, et je me recherche encore, et je fais des erreurs. Et c'est important aussi d'avoir, je pense, des acteurs qui le disent et qui. Et j'ai l'impression qu'on a grandi avec ces jeunes-là qui regardaient la série. Et genre, je fais partie aussi du public de Scam. Donc. On a grandi tous ensemble et ça me touche beaucoup.
Regardez Scam, il y a pour l'instant 6 saisons. Il paraît qu'il y en a une 7e et une 8e en préparation. Enfin, en tout cas, c'est signé. On verra bien.
Et il la tourne en ce moment.
Il la tourne déjà.
Ouais,
bah voilà. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle et j'espère que ce sera en 2021. On en reparlera sans aucun doute de Scam. C'est une jolie série qui est très très réussie. On va évoquer d'autres séries qui parlent de l'adolescence, mais il est temps d'abord de regarder du côté d'une série qui a animé notre adolescence. La mienne en l'occurrence, hein, pardon, alors là vous allez fermer un peu vos oreilles. Au moment de sa sortie, c'est une série qui est devenue culte pour ma génération et celle d'après, Friends. L'histoire de... Oui, vous voyez ce que c'est comme série, Marion et
non,
Axel.
Tu peux voyez pas, Marion. Vous pouvez me rappeler le pitch.
Je vous rappelle le pitch. Non, je vous le rappelle. Vous avez demandé, je le fais. 3 filles, 3 garçons qui vivent en coloc dans un New York totalement idéalisé. On va être clair, ils ont tous entre 25 et 30 ans. Et notre sérivore, Clémence Olivier, elle a une révélation à vous faire à leur sujet.
Clémence Olivier, agent coulisses de Sériland.
Friends aurait pu être une sitcom très différente, voire une série complètement ratée. Car au départ, les amis devaient être 7 au générique. Au début des années 90, Friends n'existe pas encore. Ou plutôt si, à l'état de projet. Martha Kaufman et David Crane, les deux showrunners, créateurs et chefs d'orchestre de la série, viennent de présenter le script de leur pilote à la chaîne américaine NBC. Les producteurs sont emballés, mais ils veulent s'assurer que la série, qui parle de jeunes d'une vingtaine d'années, ne devienne pas une sitcom pour ados. L'audience, ils la veulent la plus large possible. Pour convaincre les quadras et les quinquas de regarder, ils trouvent alors une solution, ajouter dans la bande de copains un personnage plus âgé. À contre-cœur, Martha Kaufman et David Crane planchent sur cette idée, et dans leur script, Pat the Cop va prendre vie. Pat the Cop, c'est donc un policier avec de la bouteille. Selon l'auteur du livre Génération Friends, Saul Austerlitz, il aurait même été inspiré d'un vrai agent de police, un flic cinéphile plus précisément, que l'un des auteurs de Friends avait croisé au cinéma. Au début de l'année 94, son rôle est donc écrit. Des acteurs sont même auditionnés. Les Friends vont être 7 au générique. Mais la sauce ne prend pas. Martha Kaufman et David Crane ne croient pas à ce personnage. Il ne se démonte pas pour autant. Il ruse. Il propose à la chaîne de donner une place plus importante dans le scénario aux parents de Ross et Monica, les Geller.
Rachel, elle aura réussi sa vie. On est tombé sur ses parents au club. Remarque, on peut pas dire qu'ils jouent bien.
Je ne vais pas vous dire combien ils ont dépensé pour ce mariage, mais 40 000 dollars, c'est une somme importante.
En tout cas, elle a eu la chance d'accompagner un homme jusqu'à l'hôtel.
Et ça veut dire quoi exactement ?
Rien. C'est une expression.
Ah, non, pas du tout.
Allons, voyons, n'écoute pas ta mère, Monica. Tu es indépendante et tu l'es depuis toute petite. Oui, je m'en souviens. Tu étais haute comme 3 pommes et tu n'avais pas d'amis, mais tu étais très bien.
C'est un succès. NBC est emballé. Jack et Judy Geller vont prendre vie. Jack, c'est le sexagénaire sans filtre qui fait des commentaires qui font honte à ses enfants. Et Judy, c'est la mère insupportable qui passe son temps à critiquer sa fille. Il reste des personnages secondaires, mais ils apparaîtront dès le 2e épisode de la série et tout au long des 10 saisons de Friends. Plus tard, un autre personnage secondaire plus âgé Richard Burke, joué par Tom Selleck, sera intégré à la série. Quant à Pat the Cop, il sera effacé du scénario aussi vite qu'il y est arrivé. Friends, c'est une série en 10 saisons, 236 épisodes. Elle est disponible sur Netflix.
Marion et Axel, est-ce que Friends est dans votre top 10 des séries qu'il faut avoir vues au moins une fois dans votre vie, dans notre vie, ou c'est déjà trop has-been pour vous, Marion?
Moi, je l'ai vu quand j'étais jeune. J'ai pas vu tous les épisodes et je me souviens que je l'ai vu vraiment très jeune, peut-être que j'avais 10 ans. Et du coup, il y a des moments où je tombais sur des trucs où les mecs, ils avaient un poulet sur la tête. Enfin, je comprenais pas tout.
C'est la dame de Thanksgiving.
Je comprenais pas tout. Et donc après, plus tard, j'ai revu des diffusions parce que c'était diffusé aussi sur France 2, je crois, à l'époque.
Bien sûr,
partout.
Ouais.
Et donc après, j'ai apprécié quand j'étais plus âgée, quand j'ai eu vers 19-20 ans, là, j'ai compris toute la beauté de Friends. Mais quand on la regarde aujourd'hui, j'avais écrit un article sur Combini Autopromo, mais justement sur la nouvelle génération qui regarde sur Netflix Friends et qui est assez choquée de choses un peu grossophobes, du fait que la série est très blanche, de la manière dont elle aborde les personnages LGBT. Donc c'est vrai qu'il y a eu un peu un gap de génération et je pense qu'on peut la critiquer les critiques tout en l'adorant, en continuant à la regarder, mais être conscient effectivement qu'elle avait quand même des petits défauts, quoi.
Vous connaissez Axel Friends ou pas?
Oui, mais j'ai jamais regardé. Honnête.
Vous êtes le premier homme sur cette terre à me dire que vous n'avez pas regardé Friends. Je suis hyper impressionnée.
C'est un classique, quoi.
Alors, Axel, une des grandes réussites de Scam, à mon sens, ça repose sur les dialogues. Parce que ça sonne juste. C'est une gageure dans les séries, d'une façon générale, mais alors notamment dans les séries pour ados. On peut facilement être à côté de la plaque quand on veut inventer des dialogues pour des adolescents. Il y a une série française qui est disponible sur arte.tv qui m'a marqué cette année. Ça s'appelle Tu préfères. Marion Olité, je sais que vous l'avez vue.
Ouais.
Elle met en scène deux filles et deux garçons qui habitent dans une cité parisienne et leur jeu favori, c'est Tu préfères. Vous connaissez ce jeu ou pas?
J'adore ce jeu.
Hein, tu préfères telle ou telle situation.
Ouais.
Alors bon, moi, de mon temps, quand j'étais toute petite, c'était Tu préfères être sourde ou aveugle, ce qui était complètement idiot comme question, on est d'accord. Et donc, sur ce principe-là, ils ont développé une série. Écoutez.
Ça veut dire aujourd'hui, tu préfères faire un taf que t'aimes bien d'ouf, mais tu gagnes un SMIC? Ou avoir 10 000 euros par mois, mais tu fais un taf de merde.
Quoi comme taf de merde, tu gagnes 10 000 euros?
Laver les toilettes publiques.
Mais le coran, je te les lave, je les lèche, je les récure avec des brosses à dents, frère. Non, j'étais malade ou quoi, frère? 10 000 euros.
Et moi, je préfère prendre le SMIC. Hein.
Eh, n'oublie pas que l'argent, ça fait le bonheur. Hein.
Parce que si t'aimes le travail que tu fais, en vérité, tu t'en fous.
Comment je peux être heureux?
10 000 balles.
Je c'est me pas dis, l'argent qui fait le bonheur. Hein.
Mais voilà que ça fait le bonheur, l'argent.
Bah, va dire c'est un pauvre, alors. Si t'as pas d'argent, t'es rien en plus.
T'as pas de sous, t'es personne.
Je suis fan de cette série créée par deux femmes, Romane Guéret et Lisa Coca. Marion, vous trouvez que les dialogues sonnent juste d'une façon générale dans les séries et encore plus dans Tu préfères?
Oui, oui, on est presque choqués pour le coup, hein, parce c'est vrai que c'est vraiment ce que sortent les ados de 14-15 ans, selon les milieux où ils évoluent en fait. Donc encore une fois, je crois que ces deux créatrices, elles se sont vachement inspirées des jeunes.
Oui.
En fait, elles les laissaient improviser.
Alors ils appellent ça de l'improvisation dirigée, c'est-à-dire que les acteurs connaissaient la situation, ils savent de quoi ils vont parler, mais après c'est libre cours, mais elle est cadre quand même pour pas que ça parte en délire à chaque fois.
Oui, il y a quand même un vrai scénario, j'imagine, et puis
tout
c'est elle qui décide du thème qui va être abordé à chaque épisode. Mais du coup, oui, c'est drôle, c'est malin, ça met en avant aussi des ados qu'on voit pas dans Gossip Girl ou Beverly Hills, pour citer ce genre de série. Ça met en avant des ados qui vivent dans la France aujourd'hui. Donc ils sont drôles, ils sont malins, ils sont parfois maladroits, mais c'est une série hyper attachante. J'espère qu'il y aura une saison 2 d'ailleurs.
Moi aussi, j'espère vraiment qu'il y aura une saison 2. Axel, est-ce que vous travaillez avec les scénaristes dans le cadre de Scam, par exemple, pour que les dialogues sonnent justes?
Non.
Pas du tout.
Non, mais en tout cas, sur la 3, je me souviens que j'avais pleuré en lisant, j'avais ri. Enfin, je veux dire, c'était déjà très très bien écrit. Et donc, on sait que quand on rentre en tournage, une fois qu'on a bien répété, qu'on a bien lu, qu'on a bien travaillé nos personnages et tout le scénario, on a plus qu'à vivre les scènes et on n'a pas à se poser la question de est-ce que notre personnage va dire ça. On sait que ça a été super bien écrit, quoi. Enfin, en tout cas, j'ai eu cette impression-là. Et...
Avec une part d'improvisation ou pas du tout dans les scènes?
J'ai pas l'impression. Non, peut-être que je vous dis une bêtise, hein. Mais non,
ah non
dans mon souvenir, non.
Bon.
Non, pas du tout.
Je vous conseille, tu préfères. C'est à voir.
Ça a l'air
absolument
génialissime.
C'est vraiment génial. C'est sur arte.tv. Okay. Il y a une seule saison. C'est 10 épisodes de 6 minutes. C'est vraiment la petite pastille en fin de journée qui fait plaisir. Et c'est un vrai regard sur l'adolescence aujourd'hui en France. Et puis, je pense que je vais vivre un petit moment de solitude parce que vous êtes beaucoup trop jeunes tous les deux pour connaître cette série. Ça s'appelle Hartley, cœur à vif. Je me suis replongée dans cette fiction australienne des années 90 qui raconte encore le quotidien de lycéens et de profs. Et j'ai été très surprise, j'avais totalement oublié cette dimension-là. J'ai été surprise de la dimension politique de la série. Écoutez cet extrait du premier épisode.
Quoi ? Tu crois que toi, tu saurais faire docteur ?
Va savoir.
Wouhou !
Jack, docteur, mais je rêve.
En tout cas, je vais essayer. Toi, t'es qu'un ringard.
Bon, ça va, calmez-vous tous les deux.
Et qu'est-ce que tu veux dire par là ?
J'ai dit ce que j'ai dit, t'as entendu ce que t'as entendu. Je vais te donner quelque chose à entendre. Il n'y a plus de boulot parce qu'ils ont tous été donnés aux immigrés. C'est la vérité, mon Dieu, il m'a dit là où il bosse.
Piper, je ne veux pas entendre de propos semblables ici.
C'est de l'intox. J'ai beaucoup de compatriotes qui n'ont pas de travail. Mon père a eu la chance de trouver un boulot de balayeur. Au Vietnam, il était docteur.
Oh, c'est comme ça qu'on les appelle là-bas alors. Mes toilettes sont bouchées, chérie, téléphone au docteur.
Tu vas la fermer.
Marion, je sais que vous l'avez un peu regardé quand même, parce qu'on en a, on a préparé oui. l'émission ensemble. Et vous êtes allé regarder un peu de ce côté-ci de Hartley, cœur à vif. Qu'est-ce que vous en avez pensé du peu que vous avez vu ?
Ouais, je me souvenais pas du tout. Alors, j'ai quand même vu quelques épisodes quand j'étais jeune, mais vraiment pas du tout suivi de la même manière, quoi. Et ouais, non, j'étais hyper surprise, effectivement, dès le pilote, qu'ils abordent comme ça, boum, le racisme systémique, voilà, tranquillement, en 95. Donc, c'était... non, mais c'est vrai que c'est le fait que Hartley, cœur à vif mette en avant, en fait, un groupe d'ados qui vivent, donc c'est à Sydney, dans une banlieue défavorisée, qui viennent de plein de... Enfin, qui sont pas tous blancs, en fait, qui sont racisés, comme on dit aujourd'hui. Le Jack qu'on entend, il est d'origine vietnamienne, mais on a aussi un des héros, Nick, qui est d'origine de la famille d'origine grecque. Donc il y a plusieurs comme ça, origines différentes. Et bah ça, tout de suite, ça met en avant des problèmes effectivement qui sont politiques, mais qui sont sociétaux, quoi. Et du coup, j'ai trouvé que la série était hyper réaliste à ce niveau-là. Elle a un côté assez cool aussi, assez grunge, avec ses looks
très
complètement
grunge.
Fous, là, années 90, ses chemises bariolées. La musique est super cool. En vrai, c'était un peu la série la plus cool du début des années 90.
On avait l'impression d'être un peu rebelle quand on regardait Hartley, cœur à vif, quoi. Vous voyez, il y avait ceux qui regardaient Santa Barbara et les séries AB Productions, pour ne pas les reciter. Et Axel, on embrasse Jean-Luc Cazolet, le producteur d'AB Productions. Et ceux qui regardaient Hartley, cœur à vif. Alors, moi, de mon côté, il y avait un truc qui me faisait rêver. Et ça revient, Axel. Scam, dans Scam, c'est la colocation. S'affranchir des adultes, des parents pour vivre sa vie avec d'autres jeunes. La série, elle suit deux générations d'ados, en fait. Vous avez deux couples emblématiques par génération. Le premier couple, c'est Nick et Jodie. Puis après, Anita et Drazik. Donc, on était soit un peu première génération, soit deuxième génération. Ouais. Mais vraiment, c'est le portrait ultra réaliste d'une jeunesse populaire que vous pouvez retrouver. Tout est gratuit. Tous les épisodes sont à disposition sur mytf1.fr. Je vous la recommande vraiment.
On peut demander une version originale à MyTF1 par contre, parce que pour l'instant, il n'y a que la version française de dispo. Mamzelle toutes les deux secondes, c'est vraiment gênant.
C'est vrai. Non, mais elle est vraiment ratée.
Mamzelle pour parler à la prof, en fait.
Oui.
Mamzelle, ou alors des trucs genre c'est ringard.
Non, elle est vraiment. Oh, mon Dieu, c'est chaud. Le doublage, et je pense que le doublage est vieux, en fait.
Oui,
aussi,
mais
c'était la mode à l'époque de jouer comme ça. Enfin, je parle parce qu'on en a parlé avec Arnaud de Crémier, qui est producteur chez Gaumont TV. J'embrasse Arnaud. Non, il y a deux jours, et on parlait justement du jeu, et c'est vrai que maintenant, dans un jeu plus naturaliste, mais à l'époque c'était, enfin, on jouait comme ça, quoi, et ça s'inscrivait totalement dans.
Et puis nous, on regardait pas forcément les séries en VO parce qu'à l'époque on les avait pas, et puis même quand on les avait, c'était pas vraiment à la mode, comme on dit. Alors si les problématiques liées à l'identité sexuelle ne sont pas évoquées dans Hartley, cœur à vif, on n'est pas du tout dans ces problématiques là. Reste que ça, c'est toujours quand même la construction de l'identité qui est en jeu dans cette série et dans toutes les séries pour ados. C'est ce qu'appelait Françoise Dolto le complexe du homard. Vous savez, ce jeune crustacé, il perd sa carapace pour grandir. C'est une nécessité. Mais du coup, quand il perd sa carapace, eh bien, il perd aussi une forme de protection et il devient fragile et vulnérable. C'est ça l'adolescent aujourd'hui, en fait.
Non, mais ça me fait vachement penser à l'amour aussi, mais c'est les premières fois où on se montre vulnérable et où on fait confiance, et c'est ce qui nous construit aussi beaucoup. Enfin, moi, je sais que je me construis beaucoup sur mes histoires d'amour. Pardon. Je sais pas pourquoi. Voilà, je vous partage.
Non, confession non, mais c'est intime. Yes, c'est
ça. Mais là, pareil, c'est pas... vous venez de dire le titre d'une émission, Marion, qui ne connaît pas Axel. Hein.
Si, je connais très bien. Oui, pour la... parce que ça passe à des horaires très tardifs. J'avais fait une intoxication alimentaire avec ma mère et on se regardait des épis en boucle.
Alors attendez, je vais vous dire, je suis doublement choquée parce que vous n'avez jamais vu un épisode de Friends et vous avez regardé Confession intime.
Mais Confession intime, ça a passé sur NT1, sur TM... Non, ça a passé sur. Oui, c'est
oui
ça.
Aussi, oui, oui.
Mais
ouais,
c'est
oui.
Le truc où en fait, on n'a pas trop le choix, quoi.
D'accord. Enfin, on en parlera après.
On a dit quoi. J'allais
quand
sortir
on est
des
en
programmes.
Famille, on choisit pas la télécommande quand
merci
on est un jeune ado.
Me sauver.
Oh mon Dieu. Voilà pour les séries pour ados, sujet sur lequel on reviendra dans quelques semaines, c'est une certitude, mais sous un angle différent. L'heure est désormais aux recommandations, celle de Sériland évidemment. Marion et Axel, chaque semaine, on termine en effet cet épisode de Sériland avec les séries événements, celles dont vous allez forcément entendre parler et pour lesquelles on a eu un coup de cœur, petit, moyen, en gros, ça dépend. Et Marion Olité, vous avez craqué pour une série turque. Est-ce que vous pouvez nous faire le pitch avant qu'on écoute un petit extrait?
Oui, alors ça s'appelle Bir Baskadir en turc et ça s'appelle Ethos en anglais. Bir Baskadir, pour la faire courte, ça veut dire c'est différent. Et en fait, la série, elle brosse le portrait d'une poignée de personnages qui sont en fait un peu des symboles de la société turque. Ça se passe à Istanbul. Et en fait, on va avoir des personnages qui sont plutôt conservateurs, plutôt religieux et d'autres qui sont plutôt athées, on va dire un peu progressistes. Et donc, on assiste un peu à un choc des cultures entre la tradition, modernité, personnes religieuses, personnes athées, Orient, Occident. Et donc, il va y avoir en fait un face-à-face qui débute avec Myriam. Myriam, qui est une jeune femme musulmane, qui donc est envoyée chez une psychologue, une psychiatre même, après des évanouissements à répétition, alors qu'elle fait des ménages. Et elle s'occupe aussi de son frère, de sa belle-sœur qui est dépressive et de leurs deux enfants. Donc c'est une femme
charge
qui a
mentale,
pas trop le temps,
voilà.
pas trop le temps d'aller chez la psy, mais donc qui va s'y retrouver. Et en fait, ces deux femmes, ça va vraiment être elles sont censées avoir rien en commun. En fait, ça fait comme un peu un choc des cultures au début. Et en fait, on se rend compte que elles ont plein de choses en commun et que celle qui refoule ses émotions, c'est pas forcément celle qu'on croit.
Alors je vous propose un extrait justement de leur rencontre.
Ce Sinan, vous le connaissez plutôt bien, je me trompe?
Ça oui, je le connais bien. Je lui repasse ses chemises, ses pantalons, je fais son lit. Et si je peux me permettre, je lui lave même ses sous-vêtements. Contrairement à toutes ces femmes, elles sont même pas capables de laver leur assiette. L'une d'entre elles, pas plus tard que cette semaine. J'ose à peine le dire parce que Dieu peut m'entendre. Mais j'ai retrouvé sa culotte par terre. Elle était sous le lit, il a fallu que je la ramasse. Non mais sérieusement, c'est pas croyable, je vous le demande. J'ai arrêté l'école après la primaire, je suis pas instruite. J'ai passé ma vie dans un petit village, je connais pas les coutumes d'ici. Vous qui avez lu des livres et qui savez des choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel genre de femme, quel genre de personne fait ça?
J'ai regardé le premier épisode, c'est une série à voir sur Netflix. Marion, sur vos conseils, je vous la recommande aussi en version originale, même si vous ne parlez pas turc, parce qu'en fait, la voix des personnages est extrêmement révélatrice de la personnalité de ces femmes qu'elles incarnent. Mmh. Donc, notamment la Myriam qu'on vient d'entendre, qui a une voix très douce, très presque enfantine, que oui. J'aime beaucoup. J'ai été totalement fascinée par le personnage de cette jeune femme voilée qui cherche le grand amour, en fait. Hein. La réalisation est absolument sublime, c'est lumineux. On alterne à la fois entre des plans larges quand Myriam traverse la ville et la campagne, entre ce cabinet pour psy et puis la maison de son frère où elle vit, avec des plans serrés sur le visage des protagonistes. On a vraiment l'impression de rentrer dans leur âme. J'ai trouvé ça très, très fort.
Et c'est la beauté, en fait, de cette série qui est un peu une lettre d'amour à la société turque. Et en fait, on découvre comme ça des personnages et même une manière de créer des séries qui est un tout petit peu différente des séries dont on a l'habitude. Donc les scènes sont un peu étirées, il y a des interludes musicaux avec de la musique traditionnelle turque. La fin des épisodes aussi rend hommage à la ville avec des images d'archives qui sont tirées d'un documentaire de Maurice Piala qui s'appelle Istanbul. Tous les personnages, qu'ils soient religieux ou athées, je sais pas, le créateur donc de la série, on l'a pas dit, c'est Berkun Oya, qui est créateur et réalisateur. Il arrive à rendre une juste à chaque personnage et à montrer que chaque camp, entre parenthèses, en fait a ses préjugés et peut être discriminant envers l'autre. Mais en particulier, La série parle quand même beaucoup d'islamophobie. Et à travers le personnage de Perry, Perry est très mal à l'aise face à cette jeune femme voilée.
C'est la psychothérapeute, enfin, ouais, la voilà, psychiatre. Hein, ouais.
On découvre qu'elle aussi, elle a une incroyable colère. Il y a quelque chose qui est lié à son éducation, de pourquoi elle ne supporte pas de voir cette femme voilée. Et je pense en ça qu'on a beaucoup de choses à apprendre en regardant cette série, nous, en tant que Français, parce que le débat est aussi quand même très, très sensible sur cette question-là. Et l'islamophobie est très présente en France.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est donc, alors on dit... Ethos, hein, parce que c'est la version anglaise et la version turque, je vous la laisse prononcer.
Ouais, c'est Bir Baskadir.
Voilà, et c'est sur Netflix.
Ouais.
On termine avec vous, Axel Orion, avec votre coup de cœur. J'ai cru comprendre que vous avez beaucoup aimé ces derniers temps la série Parlement, dont on va reparler quand la saison 2 sortira. The Crown, évidemment, mais ça, on en a déjà beaucoup parlé. Mais j'avais très envie que vous reveniez sur une série pour ados qui est à voir aussi sur France.tv et qui s'appelle Stalk.
Exactement, et j'ai énormément adoré, j'ai tout binge-watché pendant le binge, ouais j'ai casé,
merci,
qui est une série que j'adore, voilà, sur un campus, sur les nouvelles technologies, sur un stalker, parce qu'on a un stalker qui tombe amoureux et qui donc décide de stalker la fille dont il est tombé amoureux. Et
alors je vous arrête, parce que vous savez ce que ça veut dire stalker, mais on va écouter l'explication du verbe stalker grâce au personnage.
Génial.
Bah oui.
Merde, sa diode. Tout stalk, espionné, traqué, harcelé. Le stalker est un chasseur et il vient de trouver sa première proie. Qui n'a jamais pêché me jette la première pierre. Mater un profil Facebook, googliser une date, scruter l'insta d'un mec ou d'une meuf, on est tous des stalkers. La seule chose qui compte, c'est de pas se faire cramer.
Ça donne assez bien l'ambiance de la série, on est d'accord, hein ?
Carrément.
Ouais.
Et puis c'est un écueil, je trouve, assez risqué de parler pas des nouvelles technologies, mais aussi de parler de ça avec le point de vue des jeunes, avec les réseaux sociaux, etc. Parce qu'en général, on en parle mal, et là, on en parle très très bien. Et on se rend compte aussi que c'est un vecteur d'éducation, que c'est un vecteur... Enfin, on est dans une bienveillance, je trouve, vis-à-vis des nouvelles technologies. Les personnages grandissent avec ça, font des erreurs avec ça, mais c'est jamais jugeant. Au début, je trouve que quand on parlait même de YouTube, ça se dit YouTube ou YouTube ?
Ouais, comme vous pouvez, YouTube. Ce que vous voulez.
YouTube. Le mec découvre ça après. Non, mais en fait, c'est des médias dont on ne connaissait pas beaucoup de choses, même vis-à-vis des YouTubeurs. Et en fait, maintenant, on commence à s'y intéresser vraiment, à être dans une bienveillance, dans une écoute et ne plus juger ces personnages. Là, ne plus juger les personnages qui utilisent les nouvelles technologies comme des geeks. Et je trouve ça vraiment super et ça en dit beaucoup sur notre génération, sur plein de choses. Et ouais, c'est au final, c'est pas très précis de ce que je dis, mais c'est vraiment une super série.
C'est une très très bonne série.
Et il y a des super jeunes acteurs, pour citer que Théo Fernandez, Carmen Cassovitz, Manon Valentin.
Transition tout trouvé, parce que je voulais quand même vous dire un mot de Théo Fernandez que j'adore dans cette série Stalk, et qui joue également dans une autre série dont je suis absolument fan, qui est à voir sur OCS.
Irresponsable. C'est incroyable, regardez. Ah oui, mais oui.
On adore, c'est aussi incroyable. J'adore.
Ouais, c'est oufissime. Voilà.
Donc là, si vous n'avez pas compris qu'il y a un enthousiasme complet sur cette série, il joue en fait, il a encore question d'adolescence, hein, parce qu'il joue le fils d'un homme qui est quand même beaucoup plus immature que lui, c'est-à-dire le père est plus immature que le fils. Et comme quoi, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, l'âge n'est pas toujours le facteur déterminant quand on parle d'adolescence. Donc on en revient à notre point de départ.
C'est génial.
C'est vrai, ça, c'est la classe. Hein.
Vous pouvez pas mieux terminer.
Merci infiniment Marion Olité d'être venue. L'actualité des séries et vos critiques, elles sont à suivre dans votre séquence Binge by Combini. Puis Axel Orion, un immense merci pour vous être arrêté dans ce studio.
Merci à vous.
On va vous retrouver bientôt au théâtre pour un seul en scène, Les mille et une vies des urgences. Bientôt dans une autre série Plombée. Et le 16 décembre au cinéma... dans Slalom.
C'est ça, merci beaucoup.
Et puis Scam est à voir et à revoir sur France.tv. Comme chaque semaine, je vous quitte avec une réplique tirée d'une série culte, ma série culte en l'occurrence, Six Feet Under, réplique de Brenda qui dit « Tout ce qu'on a, c'est ce moment, ici et maintenant. Le futur, c'est juste un foutu concept qu'on utilise pour éviter d'être vivant aujourd'hui. » Prochain épisode de Série Londres, rendez-vous avec une jeune comédienne sortie de l'adolescence il y a peu de temps. Bérangère Krief sera notre invitée de la semaine. On évoquera avec elle, entre autres, la sortie de la saison 2 de Tétard à voir sur Canal+. Série Londres est un podcast Europe 1 Studio produit par l'éternelle jeune femme Adèle Ponticelli, réalisé par le très jeune Christophe Pierrot et préparé avec mes ados sérivores Clémence Olivier, Magali Buteau et Tristan Barraud. Si cet épisode vous a plu, le prochain vous séduira, c'est certain. Restez à l'écoute et puis surtout parlez-en autour de vous, commentez, faites-nous part de vos retours. Vous pouvez même nous attribuer des petites étoiles sur les plateformes des podcasts. Et plus vous nous étoilez, et plus on est heureux. Le groupe Facebook de Sériland est là pour vous aussi. Vous pouvez d'ailleurs nous dire quelles sont, selon vous, les meilleures séries de cette année 2020. Profitez-en, on a besoin de vous. Et puis attention, dans Sériland, il y a une règle, pas de spoil. Puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.